Il faut s'y remettre. Nous avons considéré ce matin quelques-uns des lieux, des postes d'aiguillage, pourrait-on dire, où se décide souvent, d'une façon qui doit être plus consciente si nous voulons espérer plus de rigueur, les choix d'interprétation que l'on fait. Je vous propose quelques réflexions parallèles sur deux autres lieux encore que je présente dans la troisième étude sous les titres 4 et 5. La triade création-chute-rédemption a été proposée tout spécialement par l'école néo-calviniste comme la grille très générale, ce n'est pas encore un paradigme détaillé, qui correspond à la façon dont la Bible considère toute la réalité et dessine sa propre interprétation de l'histoire. Je crois que la trouvaille qui n'a rien eu de révolutionnaire par rapport à la tradition antérieure, mais qui a signifié un surcroît de lucidité, que cette trouvaille est précieuse. Il m'a été extrêmement utile dans mon débat, mon travail de tous les jours et depuis fort longtemps avec les théologies contemporaines, de pouvoir opposer cette manière de situer, de percevoir les données à celles qui sont courantes sous des influences philosophiques diverses dans les autres courants de pensée, y compris les courants de pensée chrétiennes libérales. Et il vaut la peine, me semble-t-il, de nous interroger sur le sujet qui nous occupe quant à l'application de cette triade grille première très générale, création, chute, rédemption. Comment faisons-nous fonctionner cette division tripartite qui n'isole pas les trois termes, mais qui au contraire les relie? Y a-t-il des ordres de création, une structuration fondamentale qui remonte à la volonté du Dieu créateur, antérieure au péché et à ses effets, et qui concerne la masculinité et la féminité? C'est une grande question à poser, et je suis prêt à répondre assez énergiquement oui, quant à moi. Je crois que le texte du deuxième chapitre de la Genèse, en particulier, implique clairement la volonté d'enseigner quel est le rapport de l'homme et de la femme. Un rapport qui est d'abord un rapport de communauté de nature, qui les oppose ensemble à tout le reste des créatures terrestres, à tous les animaux. La petite mise en scène quasiment comique du défilé des animaux qu'Adam inspecte pour savoir s'il va trouver le vis-à-vis qui lui correspond est là pour nous faire saisir avec la plus grande force que l'homme et la femme se trouvent d'un même côté d'un fossé ontologique, on va dire, radical, face aux divers êtres vivants. Mais y a-t-il seulement cette affirmation de la communauté de nature, os de mes os, chair de ma chair? Y a-t-il un autre élément? Et cela constitue-t-il un ordre de création? C'est une question que l'on peut poser. Toutes les références que la Bible pourra faire au sujet, non seulement dans ce premier chapitre de la Genèse, serviront d'indices, voire de preuves. Mais on pourra aussi essayer de voir si, à travers toute l'histoire, demeurent comme des constantes certains rapports, en apparence au moins, indépendants de l'efficacité destructrice et déformatrice du péché, critères de discernement, voilà, si une structure semble toujours présente, ou généralement présente, quant à l'homme et à la femme, et si il n'est pas évident que c'est un effet du péché. Alors, on pourra supposer au moins qu'il s'agit d'un ordre de création, d'une structure imprimée par Dieu lui-même à la nature qu'il a faite, à la nature humaine qu'il a faite. Une question se posera aussi, mais elle, je la traiterai surtout sous le point 3 de ce paragraphe, sur la permanence de ces ordres de création une fois la rédemption inaugurée. Mais avant de parler de la rédemption, il faut parler des effets de la chute, de tout ce que cela implique. Quels sont les effets de l'entrée du péché dans le monde, de sa diffusion, de l'altération qu'il implique? À coup sûr, Genèse 3 en parle à propos de ce rapport qui nous intéresse dans notre étude du masculin et du féminin, puisque ce qui est dit à la femme a particulièrement trait à un rôle féminin, celui de l'enfantement, et à son rapport à l'homme. Moi, je traduis ton élan plutôt que ton désir. Ton élan, c'est un mot très très rare, te portera vers lui et lui dominera sur toi. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait aucune domination avant, ou est-ce que c'est maintenant une coloration plus négative qui s'attache à la domination telle qu'elle devient? Voilà un débat qui aura lieu. Mais à coup sûr, le verset en cause au chapitre 3 de la Genèse montre que la chute, l'entrée du péché, a des effets. Une fois ces effets reconnus, nous en parlerons encore davantage à la fin de la quatrième étude, peut-être tout à l'heure, j'espère que nous pourrons aller assez vite. Une fois ces effets reconnus, une autre question se pose, qui a déjà été posée lors du carrefour d'hier. Ces effets sont-ils à accepter comme une juste punition que le Seigneur a voulu, comme peut-être des choses qu'il permet et qui servent de garde-fou contre une prolifération encore plus pernicieuse, nocive du péché? Ou bien s'agit-il de choses à combattre? Là non plus, les réponses ne sont pas évidentes. Il peut y avoir certains châtiments qui sont en même temps des mesures miséricordieuses pour empêcher que le péché se donne libre cours d'une façon qui serait finalement encore plus dommageable. Donc, on peut chercher. Est-ce que la domination dont il est question dans ce verset de la Genèse que j'évoque doit être considérée comme un simple effet de péché, donc à combattre? C'est une forme, entre autres, du péché, donc c'est le sexisme contre lequel il faudra déployer toutes les stratégies possibles. C'est le point de vue des féministes. Ou bien, faudra-t-il dire, c'est une mesure qui, certes, est une conséquence du péché, qui ne correspondait pas à l'intention originelle de Dieu, mais qui est une mesure de sagesse pour la préservation de l'espèce humaine, du genre humain, dans le temps marqué par la chute. C'est une chose que l'on peut plaider. Le rôle, je ne veux pas ouvrir un autre débat qui d'ailleurs lui aussi a été évoqué très brièvement hier, le rôle de l'épée dans les mains du magistrat peut aussi être considéré d'une façon semblable. C'est un effet du péché que l'épée lui soit placée entre les mains. Mais alors cela veut-il dire que, connaissant l'intention du Créateur d'un monde de paix, de réconciliation, où le sang ne coule pas, nous devons lutter contre l'usage de la force militaire, le travail de la force de gendarmerie, de police, en disant c'est contraire à la volonté de Dieu suprême? Ou bien est-ce que nous devons dire au contraire, c'est ce que Dieu veut pour préserver un ordre qui ne soit pas trop mortifère dans la société pécheresse? Vous voyez les questions qui se posent, ne prétends pas les trancher maintenant. Mais je vous explique ce que j'avais dans la tête en mettant ma petite parenthèse, à supporter avec résignation, à combattre. Quelle attitude avoir à l'égard de ces conséquences du péché même que l'on constate sur les rôles masculins et féminins? Si on a le droit de parler de rôle, nous y reviendrons. Et puis, alors, troisième aspect, celui qui sans doute fera l'objet de controverses, avec le plus de conséquences pour la vie dans les églises, une fois que la rédemption a eu lieu, que ses effets commencent d'être appliqués, ce qui est notre situation, puisque Jésus-Christ est venu pour dissoudre les œuvres du diable, puisqu'il y a restauration. Et au-delà du projet originel de Dieu, devons-nous dire que les effets de la chute, et même peut-être certaines mesures stabilisatrices nécessaires dans un monde de pécheurs, sont maintenant levées pour ceux qui vivent de la rédemption. Ou au moins, autant qu'il leur sera possible, ils devront essayer de lever ce qui était caractéristique d'un monde où le péché règne avec la mort. C'est une question qu'on peut poser. Est-ce ainsi qu'il faut comprendre ou non ? Peut-être intéressant de mentionner que Calvin, que je pense vous n'associez pas spontanément à l'idée d'une grande émancipation de la femme, de rôle féminin de tout premier plan, encore que la Réformation ait bien été marquée par la mise en vedette de certaines personnalités féminines, bon, il y a eu Marguerite de Navarre, mais il y en a eu d'autres, c'est sûr qu'il y a eu une influence. Un article de Madame Isabelle Aleknovitch dans Fac Réflexion rappelle d'ailleurs quelques données historiques à ce propos. Mais vous n'associez sans doute pas Calvin à une vision très très féministe de la place de la femme. Et on peut noter dans ce sens qu'il s'indignait de ce que les catholiques permettent aux sages-femmes de baptiser. Il trouvait que c'était un désordre tout à fait intolérable que le baptême ait pu être autorisé à des femmes. Eh bien, Calvin, malgré donc ce que je viens de dire, tendait à comprendre les restrictions qu'on trouve encore dans les épîtres de Paul à propos des rôles féminins comme uniquement résiduel lié à un état de monde pécheur et devant être complètement levé par la rédemption quand elle serait pleinement appliquée. Il n'y voyait pas quelque chose qui correspondrait à une volonté éternelle du Créateur pour l'homme et la femme, mais à une disposition du type externe à quoi il fallait se soumettre, mais se soumettre en sachant que c'était du provisoire et du regrettable à beaucoup d'égards. C'était l'interprétation de Calvin. Et alors, Calvin lui-même n'en tirait pas la conclusion, mais que tirent certains féministes aujourd'hui, à savoir que dans la communauté de la rédemption, qu'est l'Église, il faut tendre à manifester ce qui est la liberté du royaume, s'il est possible d'échapper à ces contraintes de la situation du monde pécheur, eh bien, il faut le faire. Si la subordination de la femme ne correspond pas à un projet divin à long terme, en quelque sorte, mais est simplement lié à la situation que le péché a produite, alors dans l'Église, si on le peut, il faudra lever cette subordination. Voilà ce que certains, je ne sais pas de plus que Calvin, disent comme dans le prolongement de sa thèse. Je signale que ce rôle de Calvin, d'un côté, qu'on pourrait qualifier de pré-féministe, a été noté en particulier par un professeur d'histoire à la faculté de Princeton aux États-Unis, James Douglas, qui est devenu depuis, je crois, président de l'Alliance réformée mondiale, une personnalité au niveau de responsabilité. J'ai eu l'avantage de lui apporter la réplique une fois, vous m'avez demandé, à Genève, après un exposé, j'étais un des respondents, à une étude qu'elle avait faite. C'est comme ça que je la connais un tout petit peu, et qu'elle avait d'ailleurs très bien pris les choses que j'avais dites. Je le signale au passage. Donc, la portée de la rédemption, et en particulier telle qu'elle joue dans le temps présent, est de nouveau une chose qu'il faut essayer de mesurer, de situer exactement. Puis en cinquième paragraphe, alors je vous propose de revenir sur la question des apports extra-bibliques. Nous en avons déjà aussi un peu parlé. Le sujet est délicat, il ne s'oppose pas seulement à propos du féminisme, mais de tous les autres sujets. J'en traite dans le Révélation des origines. Je me sens tiraillé entre deux positions qui comportent toutes les deux de très gros dangers. Alors j'essaye de trouver une solution adéquate, non pas simplement une voie moyenne, mais une solution adéquate qui échappe aux dangers de gauche et de droite. Il y a grand danger à dire, mais bien sûr, toute vérité est vérité de Dieu. Ce que nous découvrons par enquête scientifique, tiré de la création de Dieu même, donc finalement ça vient de Dieu aussi, nous allons le faire jouer dans notre étude de la Bible, puisque Dieu lui-même, dans ce qu'on appelle sa révélation générale, dans la nature, etc., et grâce au pouvoir de recherche rationnelle qu'il a donné à l'humanité, ce que Dieu nous enseigne, il serait stupide de le mettre entre parenthèses, ne pas s'en servir, lorsqu'on lit la Bible. Alors, certains disent, puisque nous savons que le monde a plusieurs millions, milliards d'années, bon, alors, quand nous lisons le début de la Genèse, nous n'allons pas hésiter et prendre une interprétation littérale des jours du premier chapitre, ce serait stupide. Ce que nous savons par des voies extra-bibliques peut entrer dans le jeu de l'interprétation que nous faisons de ce chapitre. Alors, je dis que c'est très très dangereux, parce que cela conduit presque inéluctablement à l'étouffement de la voie biblique, à la surimposition à la Bible d'une autorité qui lui est pratiquement supérieure. Nous constituons notre science, nous disons « nous savons que », et puis la Bible a l'air de dire autre chose, mais nous savons qu'on ne peut pas comprendre comme ça. Et en fait, nous ne sommes plus dirigés par l'Écriture. Nos propres idées sont plaquées sur l'Écriture, et déforme son enseignement sans que nous ayons le moyen de recevoir la vraie critique qu'il nous faut de la Bible, de la part de la Bible. Autant dire, nous savons que les morts ne ressuscitent pas, c'est scientifiquement prouvé, etc. Donc la résurrection de Jésus, c'est un symbole, c'est une façon de parler, etc. N'est-ce pas? À partir du moment où on accepte de faire jouer à ces apports d'informations extra-bibliques le rôle que j'ai évoqué, l'autorité biblique est en réel danger. Mais le danger inverse existe aussi, à l'opposé, de refuser de tenir aucun compte de ces données extra-bibliques. De dire, nous lisons la Bible, nous lisons que la Bible, c'est la Bible qui est notre seul guide, c'est la parole de Dieu, et sans la scriptura, par l'écriture seule, nous ne voulons pas entendre parler de quoi que ce soit d'autre. D'abord, nous n'y arrivons pas, nous avons toujours des idées en tête, d'une certaine façon, et cela nous influence, et si cela se produit sans que nous en soyons conscients, alors que nous croyons y échapper, c'est plus grave que si nous repérons le processus. Et puis, je ne pense pas que ce soit juste. Il y avait un ensemble de connaissances que présupposait l'auteur inspiré, et qu'il présupposait chez ses lecteurs, ou chez ses auditeurs au départ. Toute parole est prononcée sur l'arrière-plan, avec le fond d'un ensemble de connaissances qui sont extra-bibliques. Alors, ne vouloir en tenir aucun compte, c'est se condamner à manquer le sens. Non, ce n'est pas possible non plus. Alors, je suggère que nous avons à faire usage des données extra-bibliques, mais avec beaucoup de précautions. Nous avons à privilégier la parole biblique, à distinguer deux rôles dans l'interprétation, ou plutôt même dans l'élaboration de la doctrine à laquelle nous allons adhérer, dans l'élaboration des conclusions que nous allons atteindre. Il y a un rôle constitutif dans l'interprétation. Je dis que nous n'avons le droit de faire jouer un rôle constitutif dans l'interprétation qu'aux connaissances que nous pouvons imputer à l'auteur et à son premier auditoire. Il est tout à fait normal de dire, lorsque dans le livre des Juges vous avez cette parabole de Yotam où les arbres se choisissent un roi, où ils discutent, etc., de dire « Yotam savait bien, et savait que ses auditeurs savaient, que les arbres ne parlent pas. » Et donc, que c'était une parabole. Il employait un langage figuré. Ces connaissances que nous pouvons attribuer à Yotam et à ses auditeurs, nous avons le droit et le devoir de les faire jouer dans le processus d'interprétation. Mais ça ne joue pas, par exemple, pour l'âge de l'univers. Il ne serait pas raisonnable de dire Moïse savait que la Terre avait 80 milliards d'années, et ses auditeurs le savaient. Non, non, il ne savait pas, probablement. Enfin, probablement, donc nous ne pouvons pas faire jouer un rôle constitutif dans l'interprétation. Mais ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas jouer alors aucun rôle à cette information extra-biblique que le développement moderne des sciences en particulier nous a permis d'engranger. Je crois que dans un deuxième temps, ça fait partie de notre responsabilité de chrétiens mûrs qui essayons de penser notre foi, de dire voilà, j'ai d'abord essayé d'écouter la Bible dans son contexte, comme elle parle, de recevoir son message sans faire interférer mes idées, mes connaissances, mes théories scientifiques. Mais maintenant que j'ai entendu la Bible, que je sais ce qu'elle me dit, je suis responsable devant Dieu avec toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, à deux niveaux, celle sur l'enseignement biblique et puis celle sur la nature, et j'essaie de voir comment ça joue. S'il y a des points de concordance, si la confrontation des deux conduit à une nouvelle étude, soit de la Bible, soit des données scientifiques dont on a peut-être aussi tiré prématurément certaines conclusions. Donc il y a un rôle. Bon, dans certains cas, on aboutira à un constat d'échec. On ne sait pas comment réconcilier. Enfin, je pense que ça fait partie aussi de la maturité chrétienne, de savoir que nous sommes ignorants de tant de choses, et puis nous sommes malhabiles pour profiter même de ce que nous savons, individuellement et collectivement. Alors il n'est pas étonnant du tout qu'il y ait des questions qui demeurent pour nous irrésolues, sinon insolubles. Alors ne paniquons pas, ne nous irritons pas, ne nous décourageons pas. Moi, je ne sais pas encore très bien la meilleure solution en ce qui concerne le rapport entre la paléontologie et puis Adam historique. J'hésite encore, il y a des inconvénients à toutes les solutions qu'on a pu esquisser, elles ne sont pas impossibles à imaginer. Bon, il y aura des cas où la solution bien nette, toute harmonieuse échappera. Mais dans d'autres cas, on trouvera. Il y aura une bonne façon d'ajuster les choses. Et là où l'écriture n'a pas donné d'indication précise, il sera aussi tout à fait correct de dire j'accepte les résultats de l'enquête scientifique, pour autant qu'elle paraisse bien établie, bien menée, cette enquête. Donc, un rôle pour les apports de sciences extra-bibliques. Et en l'occurrence, lorsqu'il s'agit donc de féminisme, ce sont surtout des sciences humaines où la vigilance critique est très importante. On distingue entre les sciences dures et puis les sciences humaines. On sait bien que les écoles divergent grandement parce que des influences idéologiques y jouent un rôle plus grand encore qu'en physique ou en mathématiques. Je ne dis pas qu'elles ne jouent aucun rôle, mais enfin, c'est dans les sciences dites dures. Les effets de ces présupposés de type philosophique sont moins marqués, moins évidents, semble-t-il. Mais plus on va vers les sciences humaines, plus la chose apparaît. Donc, grande vigilance critique. Savoir que des choses qui peuvent faire l'objet d'un vaste consensus peuvent n'être en réalité que l'expression d'un esprit idolâtre de la liberté, par exemple, c'est une des idoles modernes, idolâtre de la puissance, et donc ne pas devoir être reçu par un chrétien vigilant. Mais avec cette vigilance critique, donc possibilité de tenir compte de diverses données. Voilà ce que je vous suggère. Vous voyez qu'il s'agit de nouveau d'un lieu d'aiguillage où les choses ne sont pas toujours faciles à décider. Alors maintenant, nous pouvons nous mettre à appliquer ces grandes lignes concernant la méthode. À propos du sujet que je vous propose, j'ai énoncé pour la quatrième étude, Dieu et la différenciation masculin-féminin. De nouveau, et aussi à cause du temps qui nous est imparti, je n'entrerai pas dans beaucoup de détails, nous n'irons pas très très à fond des problèmes, mais vous aurez une petite idée d'ensemble. D'abord, la grande question du langage masculin utilisé pour Dieu.
du reproche qui est fait par les féministes, que Dieu a été présenté comme mâle, c'est-à-dire pour elles, étranger, oppresseur, un Dieu qu'elles n'ont pas été capables d'apprécier comme le soutien, la force de libération et de guérison intérieure dont elles éprouvaient le besoin. Le langage traditionnel, à coup sûr, parle de Dieu de manière très très appuyée au masculin. C'est le Notre Père, bien sûr. Ce sont toutes les images habituelles, le juge, le guerrier, le potier. Pendant des siècles, il ne me semble pas que les femmes chrétiennes, quand même, eux qui se sont exprimées, qui ont écrit, bon, je citais Marguerite de Navarre, en ont éprouvé une gêne. Il ne me semble pas que les grandes abbesses, l'autorité rayonnante du Moyen-Âge, que Sainte Thérèse d'Avila, pas plus que donc Marguerite de Navarre, aient été gênées, aient chopé sur ce langage masculin pour parler de Dieu. Mais les féministes d'aujourd'hui réagissent autrement. Très fort. La réaction n'est pas la même selon qu'on est en face du féminisme modéré, en particulier du féminisme évangélique, ou du féminisme radical, et en particulier du féminisme antichrétien. Donc le féminisme antichrétien, c'est assez simple, dénonce ce langage masculin qui est celui de toute la Bible. Les féministes ne font pas là de détails, comme un langage qui sanctifie en quelque sorte l'oppression patriarcale dont les femmes souffrent depuis tant de millénaires, et il faut contrer tout cela par un retour à la déesse et à l'exaltation des sorcières. Nous l'avons vu ce matin, donc la situation est assez simple. Mais des réactions beaucoup plus modérées sont intéressantes à observer. Il y a deux lignes principales, me semble-t-il, que suivent ceux qui réagissent, celles qui réagissent modérément. Il y a, d'une part, l'affirmation que Dieu n'a pas de sexe, que Dieu est au-delà de toute différenciation sexuelle, que le langage masculin est un langage inadéquat, comme tout langage humain, pour parler de Dieu, qu'il transcende infiniment la différenciation masculin-féminin. Donc, qu'on peut employer pour lui aussi bien un langage féminin qu'un langage masculin. Le langage masculin s'est trouvé du fait que la société était patriarcale, comme le langage disponible qu'on a utilisé de la manière courante, parce que les hommes étaient au pouvoir. Mais, puisque Dieu transcende la dualité des sexes, que Dieu n'est pas un Dieu sexué, alors, aujourd'hui, on peut aussi bien employer un langage féminin. Il est aussi légitime qu'un langage masculin. L'un et l'autre langage sont de toute façon tellement en dessous de la réalité impensable de Dieu qu'il n'y a vraiment pas de privilège à accorder à l'un plutôt qu'à l'autre, sinon en fonction de la vibration que cela crée chez l'adorateur ou chez l'adoratrice. Alors puisqu'aujourd'hui un langage féminin est nécessaire aux femmes, qu'elles emploient un langage féminin pour parler de Dieu. Vous voyez la logique de cette thèse. Et il y a des théologiens, pas spécialement féministes, mais qui sont prêts à suivre assez largement. J'ai lu quelques lignes de théologiens jésuites, très fameux, très influents, Karl Rahner, allant tout à fait dans ce sens. Deuxième ligne, dire en fait dans la Bible, il y a aussi un langage féminin pour Dieu. Dans la Bible, le langage du Dieu Père est comme doublé par un langage du Dieu Mère. Seulement, c'est la tradition, postérieurement, toujours machiste, qui a occulté ce langage féminin pour Dieu, qui est bel et bien dans la Bible, et qu'il faut maintenant alors faire briller, remettre en honneur. Ça, c'est la deuxième grande ligne du féminisme modéré, qui essaye donc de trouver dans la Bible toutes les images où Dieu est présenté comme maternel, et qui trouve même un passage, c'est quand même assez intéressant, où le verbe caractéristique de l'enfantement est employé pour Dieu, qui n'a pas seulement engendré le peuple, mais qui semble l'avoir enfanté. C'est Deutéronome 32:18, si ma mémoire ne me trahit pas, et je le regarde encore dans l'original, pour bien vous certifier ce que je dis. Le reproche qui est fait à Israël par Moïse, c'est le cantique de Moïse, dit donc tu n'as pas prêté attention au rocher qui t'a enfanté, tu as oublié le Dieu qui a souffert des douleurs d'enfantement. C'est le verbe roul qui désigne normalement les douleurs de l'enfantement qui est employé ici. Alors les féministes disent, vous voyez, le Dieu de la Bible n'est pas en réalité le Dieu seulement patriarcal qu'on nous a présenté dans la prédication de l'Église, dans ses formules liturgiques. C'est un Dieu qui est aussi bien mère que père. Que dire de ces considérations? Comment mener une analyse critique de ce qui nous est dit? Je crois qu'il est intéressant que ce langage plus féminin pour parler de Dieu soit attesté dans les Écritures. Cependant, je crois qu'il ne faudrait pas perdre le sens des proportions. Que s'il y a un verset, je crois que c'est le seul, celui que je viens de vous citer, qui utilise pour Dieu des verbes qui vraiment ne peuvent être employés que pour la mère, que pour la femme, et c'est significatif. Ce n'est quand même qu'un verset à côté, mais de centaines et de centaines qui le disent père. Dans l'Ancien Testament, le mot père est rarement employé, mais dans le Nouveau Testament, Jésus en particulier l'a mis en relief. Et les métaphores habituelles de Dieu, ce sont des métaphores masculines. Je dirais que c'est peut-être 1-3% qui penche du côté des comparaisons féminines, et 97-18-9 peut-être qui a le caractère masculin. Donc ne perdons pas le sens des proportions à ce propos. Vous avez une question? Oui. Alors là, c'est un point que c'est très bien de soulever. Je disais ce que je vais en parler parce que le temps passe. Mais puisque votre question m'y pousse, je le fais volontiers. Vous savez que Jésus a non pas brisé avec la façon de parler habituelle de l'Ancien Testament lorsqu'il a appelé Dieu Père, mais a quand même tranché sur cet usage en privilégiant cette désignation alors qu'elle n'était pas privilégiée dans l'Ancien Testament. Et pas à ce point non plus dans le judaïsme, même si le judaïsme savait parler de Dieu comme notre Père. Et Jésus a employé un mot araméen pour Père, qui a été conservé en araméen même, transcrit, dans notre texte grec du Nouveau Testament, qui ne semble pas avoir été employé dans le judaïsme pour la prière, pour s'adresser à Dieu, jamais. Abba. L'expression « notre père »,« avis-nous » en hébreu, oui, là, on la trouve dans le judaïsme. Mais ce « Abba » n'est pas attesté dans le langage liturgique, le langage de la prière. Et alors, certains féministes se branchent sur une chose qui s'est dite très couramment dans les cercles néo-testamentaires, et ça s'est diffusé jusque dans le grand public. Ils disent « Abba, c'est papa, c'est le langage du petit enfant ». Ce n'est pas un langage qui évoque la structure d'autorité, le patriarcat. Et en fait, ça se trouve chez Hélène Storké dans son livre, cette réflexion sur Abba qui est Dadé, dit-elle. Alors je vous signale que cette interprétation de Abba comme papa, Dadé, langage familier, semble aujourd'hui réfutée. Elle a exercé une très large influence pendant 20-30 ans, et donc ça traîne encore beaucoup. Mais les études récentes, j'ai lu récemment une recension d'un livre qui fait le bilan des études récentes sur ce sujet. Les études récentes semblent converger pour dire non, c'était pas ça, en fait. L'auteur qui a le plus fait pour donner en quelque sorte un cachet scientifique à cette idée que Abba c'est papa, c'est un Allemand appelé Joachim Jeremias. Un grand savant, très bon connaisseur du judaïsme à l'époque de Jésus-Christ, et c'est lui qui a un peu lancé l'affaire, mais il s'est rétracté au moins à 75% dans une édition relativement récente de sa théologie du Nouveau Testament. Je l'ai vu de mes yeux vus dans cette théologie. Je me rappelle avoir parlé une fois avec un théologien catholique et lui avoir signalé ça. Il m'a demandé « Ouh, ça, donnez-moi la référence, etc. » Parce que le fait que Jérémias se soit rétracté sur ce point était significatif. Non, Abba ne semble pas représenter simplement un langage d'enfant. C'est un titre de respect qui pouvait être employé pour un maître, un rabbi, par ses disciples. Il y a une ou deux occurrences attestées. Donc, on a beaucoup exploité, d'une façon sans doute là encore infondée, l'équivalence Abba, papa, dadé, et ce n'est pas vraiment sérieux. Mais alors justement, certains féministes, au moins les féministes modérées bibliques, avaient cru pouvoir se servir de ce caractère familier, enfantin, dépouillé des connotations d'autorité qu'elle prêtait à Abba.
Et
alors, certaines doivent le dire aussi. Je n'ai pas présent à ma mémoire aucun texte précis de théologienne féministe pour dire ça, mais c'est tout à fait possible. Oui, c'est. Je résume bien sûr, et vous avez là des livres. Maintenant, la publication de ces dernières décennies est d'un volume énorme. Donc effectivement, il y a des façons de traiter ces difficultés que je n'ai pas lues et qui doivent sans doute avoir été proposées. Mais donc, globalement, M. Wittmann.
Est-il exact que dans les milieux judéo-chrétiens du premier siècle, le Saint-Esprit était représenté par la féminité? Et est-ce que finalement cette féminité en guillemets de Dieu ne se retrouverait pas plutôt dans la globalité de la Trinité?
Alors, je ne suis pas informé, je ne sais pas si M. Nicole le saurait mieux que moi, sur les idées des judéo-chrétiens du premier siècle. Ce qui est bien connu, ce que je vous ai dit d'ailleurs ce matin, c'est que le terme pour esprit est du genre grammatical féminin en hébreu. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que malgré donc ce genre grammatical féminin, lorsque le mot a été traduit en grec, où le terme est neutre, donc pneuma est neutre, donc ça laissait en quelque sorte la liberté, ce sont des pronoms masculins qui ont été employés dans le Nouveau Testament. Dans quelques passages, au lieu du pronom neutre, qui aurait été normal, c'est un pronom masculin. Alors, je crois que c'est une belle preuve qu'il n'y avait pas de tendance parmi les rédacteurs du Nouveau Testament, parmi ces judéo-chrétiens-là, à se représenter le Saint-Esprit de façon féminine. Alors, est-ce qu'il y a eu des mouvements hérétiques, d'autres mouvements qui, eux, ont eu cette tendance? Ça, je vous avoue de ne pas le savoir.
L'auteur se basait simplement sur les genres féminins de l'esprit
en hébreu.
Parce que j'ai lu ça dans une interprétation possible de la femme d'Apocalypse 12. Peut être interprété comme le peuple d'Israël,
ou
le Saint-Esprit.
Oui. Alors là, oui, moi je n'ai jamais rencontré cette interprétation de cette femme. Je pense que c'est pas simplement le peuple d'Israël, c'est l'Israël de Dieu, c'est l'Israël qualitatif au sein de l'Israël qui se continue en l'Église, à mon avis, bon, en Apocalypse 12, ce qui n'est pas une interprétation très originale à laquelle j'adhère pour ce passage. Mais je peux signaler encore, à propos de ces mots féminins pour le Saint-Esprit, que par la suite, très curieusement, dans le christianisme de langue grecque alors, peut-être par repaganisation, parce que je pense qu'il y a eu une évidente paganisation du christianisme au cours des premiers siècles, avec la piété des religions à mystère qui est entrée et qui a influencé toute la compréhension du baptême et de la scène. Que dans cette histoire-là, le Saint-Esprit a été appelé Sophia, mot féminin en grec, la sagesse, et que finalement, il est devenu Sainte Sophie. Sainte Sophie à Byzance, c'est une église au Saint-Esprit, dédiée au Saint-Esprit. On dit Sainte Sophie, Hagia Sophia. Donc, là, il y a une féminisation, et ça se retrouve dans la mystique russe des caractères féminins associés au Saint-Esprit. C'est assez intéressant. Et là, j'ai vu chez Elisabeth Schussler-Fiorenza, qu'elle dit que Jésus prêche l'esprit Sophia. Elle reprend Sophia, elle le dit chaque fois qu'elle le peut, parce que ça féminise. Oui. C'est une stratégie qu'elle emploie, bien sûr. Elle y croit. Hein. Je ne peux pas du tout suggérer une manœuvre déloyale, mais voilà, c'est un élément qu'elle essaie de mettre en valeur. Alors, analyse critique. D'accord, il y a des éléments, surtout un jeu de métaphores qui renvoient à des qualités féminines, et ne pas les supprimer, ça, c'est un bon service que nous rend la théologie féministe aujourd'hui, que de rétablir une vérité occultée pendant des siècles. Et le texte d'Ésaïe 66, là, que j'évoquais tout à l'heure, mais il est magnifique, je voudrais qu'on le médite beaucoup plus. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai, dit le Seigneur. Pas comme un enfant que sa mère console, comme un homme que sa mère console. C'est un texte d'une très grande profondeur, sur lequel on ne s'arrête pas assez. Bon, d'accord, alors merci à la théologie féministe d'avoir su réhabiliter un réseau métaphorique qui existe et qui montre alors autre ligne qui a été suivie, qu'en effet, il ne faudrait pas se prendre au piège d'une interprétation trop bassement, bêtement littérale du langage masculin. Dieu n'est pas sexué, c'est sûr. Dieu est au-delà de toute la polarité des sexes. Et si des pronoms du genre grammatical masculin et un nom comme le mot nom de père est employé, c'est chaque fois avec un coefficient d'incomparabilité. Il est l'incomparable. Nous ne devons pas, là, nous laisser prendre au piège d'une lecture. Gardons le sens des proportions. Il est facile de jouer sur la transcendance de Dieu, son élévation suprême, pour enlever au langage biblique sa valeur et son autorité. On n'a plus une vraie révélation de Dieu, une parole de Dieu qui nous dit quel il est lui-même. On n'a plus que des symboles humains infimes et infirmes qui renvoient à quelque chose qui est finalement inconnaissable, infiniment au-delà. Et la notion même de révélation est gravement mise en cause. Alors, attention là aussi. Je me rappelle une remarque de l'abbé Journet, qui est devenu cardinal ensuite, mais enfin il était encore abbé seulement lorsqu'il a écrit ce livre, « Connaissance et inconnaissance de Dieu », qui fait l'éloge d'un mysticisme qui élève au loin au-dessus du langage une réalité finalement inconnaissable, en tout cas inconnaissable conceptuellement de Dieu, donc, qui va dans ce sens, parce qu'il y a toute une tradition dans le catholicisme qui va dans ce sens. Mais quand même, il fait une remarque vers la fin de son livre en disant « Jésus ne s'est jamais révolté contre les mots. Jésus n'a jamais dénigré le pouvoir au service de la connaissance de Dieu des mots humains. » Alors qu'on trouve chez tant et tant de mystiques et de théologiens libéraux un dénigrement systématique. Les mots sont incapables de, etc. Nous disons cela, mais aussi bien nous taire. Finalement, le silence est supérieur à tout ce qu'on peut dire. On trouve ça ad nauseam dans toute une tradition. Or, on ne trouve pas ça chez Jésus. Nulle part. Et il l'a noté, honnêtement. Charles Journet. Je crois que ça mérite d'être de nouveau peser et méditer, et que donc ça nous avertit contre le danger de tellement parler de l'infinie élévation de Dieu que nous privons le langage biblique de son efficacité pour nous faire connaître Dieu. Or, le langage que la Bible a choisi, sous inspiration divine, est de façon prédominante un langage masculin. Alors, quel est le sens de cette prédominance? Puisque je crois qu'il faut l'admettre, qu'il faut la reconnaître. D'abord, je crois qu'il ne faut pas dire que si Dieu est masculin, alors le masculin est Dieu. Que c'est une conséquence qui ne suit pas. Qu'on peut aussi bien dire que Dieu dépouille le masculin de sa prétention à être l'ultime en assumant lui-même des titres de type masculin. De même que pour le pouvoir royal, parce que Dieu est roi, les rois humains ne sont pas absolus. Ils n'ont pas droit à la majuscule, Dieu seul est leur roi. Donc cette logique, si Dieu est décrit en termes masculins, donc ça voudra dire que l'on absolutise le masculin terrestre, c'est pas du tout une logique qui suit, pas du tout. Et il faudrait aussi, ça me paraît lié, dire qu'il me paraît profondément anormal que des femmes se sentent gênées pour la communion avec Dieu si le langage pour parler de Dieu est masculin. Je crois que ça ne peut se produire que s'il y a un tel ressentiment, une telle blessure, une telle volonté de riposter à ce que l'on considère comme une agression permanente du masculin, qu'il y a là un blocage. Mais que ce n'est pas juste et normal. Il y a quand même pas mal de filles qui ont une véritable communion avec leur père terrestre. Le fait, là, de la différence de sexe entre la fille et le père, mais n'empêche pas une vraie communion, une vraie compréhension. C'est un symptôme de maladie spirituelle. Si ce langage masculin pour Dieu, ce langage paternel pour Dieu, devient un blocage. Alors, il l'est pour certaines, et sans doute les hommes sans masculin sont responsables aussi de cela. C'est une situation de fait, mais nous ne devons pas alors céder simplement et dire, bon, alors changeons de langage, le langage masculin doit être abandonné, alors que c'est celui que Dieu lui-même a choisi dans sa parole. Mais alors, quel est le sens? J'anticipe sur, en fait, la suite de ce que je propose, en disant que si Dieu emploie un langage masculin pour parler de lui-même de façon prédominante seulement, mais quand même de façon prédominante, ce n'est pas qu'il trouve devant lui le masculin et le féminin, et qu'il trouve que le masculin, alors, sera plus adéquat pour parler de lui-même. L'ordre est plutôt inverse. Dieu suscite la différence masculin-féminin pour représenter son rapport à la créature. C'est ce que je vais glisser un peu plus loin, mais je le dis déjà maintenant, puisque autrement, ma proposition ne sera pas compréhensible. Je crois que foncièrement, la différence homme-femme doit être comparée à la différence de rôle de théâtre sur le grand théâtre du monde. Il y a deux rôles. L'homme, l'humanité, est là pour jouer, en quelque sorte, sur la scène terrestre, la pièce qui révèle le rapport de Dieu à sa création. Et dans ce drame, Dieu a décidé que l'homme jouerait le rôle de le représenter et la femme de jouer le rôle de son peuple d'alliance, de son partenaire dans l'alliance qu'il a prévu de susciter. Et c'est à partir de ce choix de Dieu que se comprend l'usage d'un langage masculin de façon prédominante, quand Dieu, alors, se révèle. Voilà la suggestion que je fais, et nous allons sans doute la reprendre un peu plus loin. J'ai encore quelques minutes, hein, c'est au quart que je conclue. Hein. C'est bien ça, hein? Non, je pense pas. Je pense que c'est au quart. Ne me tentez pas. Oui, mais on a commencé avec un singulier retard, mais on sait pas ce que la règle du jeu, ça. Dans le prolongement de ce que je viens de dire, je crois utile de faire quelque chose qu'on n'a pas fait classiquement et qu'on ne fait pas beaucoup encore. Distinguer entre nature et rôle. Entre nature et rôle. De manière classique, il me semble que le discours de la société patriarcale et de l'Église, qui se situait dans la même optique, pouvait se résumer de la manière suivante. L'homme est ceci, ceci, cela, la femme est ceci, cela, description de nature, de pouvoir, stéréotype. Donc, à l'homme de faire ceci, à la femme de faire cela. On parlait des natures, entre guillemets, c'est pas un concept de nature tout à fait strict, des traits caractéristiques de la masculinité et de la féminité, et puis on en déduisait des rôles divers, et en général, c'était un discours qui attribuait à la femme des traits qui la rendaient inapte aux fonctions de direction, de gouvernement, au rôle de responsabilité majeure. C'était comme ça que ça fonctionnait, me semble-t-il. On partait de certains stéréotypes sur la nature. Vous êtes d'accord, pour autant que vous, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marchait. Or, je suis vraiment très frappé de ne rien trouver de cela dans la Bible. Mais vraiment, vous pouvez chercher. Ce type de discours n'est pas biblique. Vous ne trouvez nulle part, la femme est ceci, ceci, cela, elle est plus légère, elle est plus variable, elle est plus faible, elle est plus... Bon, vous avez juste le passage d'un Pierre 3, où Pierre exhorte à un traitement prudent et affiné, délicat, les maris à l'égard de leur femme, en disant « c'est un vase plus faible ». Mais ce n'est pas pour reléguer la femme dans un rôle différent, c'est pour exhorter le mari. Il s'agit de comprendre ce que ça veut dire, peut-être aurons-nous le temps d'y revenir, mais en général, vraiment, je ne trouve rien qui corresponde à ce discours qui a été si fréquent, si régulier. Alors ça me paraît très... et qu'on entend encore, mais oui, on l'entend encore. Mais les féministes ont réagi très très fort contre ce discours, qui les emprisonne dans un petit cadre d'une grille générale, et là où elles n'ont pas envie d'être, le plus souvent. Et vraiment, il est significatif que la Bible soit si différente à ce propos. Alors, je me dis donc, déconnectons bien la question des natures, des traits distinctifs, différents, et puis la question des rôles. Et voyons ce que nous pouvons dire quant aux natures. Ce que je viens d'affirmer correspond en fait déjà au point 3, sous mon deuxième mot, sobriété biblique. Je trouve vraiment très très peu, pratiquement rien dans la Bible à ce propos. Mais les stéréotypes, alors on les connaît. Je ne prends pas de temps pour en parler. Si la Bible est très sobre, ne dit presque rien, ça dépouille en tout cas les stéréotypes d'autorité biblique. Mais les données des sciences humaines, de l'expérience extra-biblique, alors elles peuvent intervenir, puisque la Bible ne tranche pas sur le sujet. Y a-t-il, d'après ce qu'on peut observer avec une méthode rigoureuse, des différences dans les traits distinctifs, qu'on pourrait appeler des différences de nature, entre l'homme et la femme? Je crois qu'on peut dire que la vague féministe dans son déferlement le plus puissant a tenté de nier toutes ces différences, pour autant qu'elles auraient fondement ailleurs que dans le façonnement par la culture. L'effort des féministes a été très systématiquement de dire, en fait, il n'y a pas de différence, sauf la différence anatomique. Il n'y a pas de différence, toutes les différences ont été inculquées. C'est la manière dont l'éducation est faite, dès les premiers jours, c'est la manière dont le langage même fonctionne, ils ont accusé le langage de sexisme, qui induit les différences qu'on observe ensuite et qu'on invoque alors à l'appui de ces stéréotypes. Et ça allait dans le sens de Simone de Beauvoir. Je pense qu'on peut dire que Simone de Beauvoir plaide essentiellement, et de façon très brillante, ce livre est un grand livre, dans ses deux volumes, Le Deuxième Sexe, que on ne naît pas femme, qu'on le devient par le jeu des libertés qui s'affrontent, et ce sont les autres qui me font femme par le regard qu'elles portent sur moi, peut-elle dire, globalement. Ça correspond d'ailleurs très bien à la thèse que Jean-Paul Sartre, son compagnon, avait développée sur la judaïté. Dans son livre La question juive, il plaide de la même façon qu'il n'y a aucune identité juive qui soit donnée. Mais ce qui fait le juif, c'est le regard des autres sur le juif, le constitue juif. De même pour la femme. En réduisant donc au minimum le noyau anatomique qui est indéniable. Alors il y a eu grand débat. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié un livre que j'ai indiqué en bibliographie, un livre, un gros livre, rédigé sous la direction d'Evelyne Sullereau et d'Odette Thibault, issu d'un colloque à Royaumont, je crois. À l'époque, au moins, la somme de ce qui pouvait être dit avec une certitude suffisante. Beaucoup de féministes dans ce colloque et intervenant dans le livre. Donc un travail très bien fait, mais qui laisse quand même un minimum indubitable de différence, au-delà de la différence anatomique entre l'homme et la femme, à définir. Et en s'en tenant aux sciences dures, en écartant la phénoménologie, dit bien Evelyne Sullereau dans son avant-propos, de la manière de vivre masculinité et féminité, ce qui pourtant est un chapitre qu'on devrait aussi considérer, c'est elle qui le dit. Evelyne Sullereau, c'est une des personnes que j'admire le plus parmi les leaders intellectuels du temps présent. Vraiment une femme admirable de lucidité et de droiture dans son travail. Elle a été une des pionnières du féminisme en France, dénonçant des inégalités oppressives, mais ces dernières années, elle a plutôt réagi contre les excès du féminisme, montrant, par exemple, à propos du père et du père dans le divorce, qu'un tort sérieux et injuste a été commis à l'égard des pères. Donc, vraiment une femme d'une droiture exceptionnelle. Et alors, dans cet ouvrage, il y a des éléments qui montrent quand même qu'il y a des différences. Entre autres, le fonctionnement des hémisphères cérébraux. Vous savez qu'on considère que les deux hémisphères, gauche et droite, ont des spécialisations différentes. Et il semble bien avéré que les deux hémisphères fonctionnent différemment chez la femme que chez l'homme. En fait, chez la femme, ils fonctionnent de manière plus équilibrée. Alors que chez l'homme, l'un des deux hémisphères l'emporte très fortement. Et c'est cela qui explique un certain nombre de différences. En URSS, à une époque donc, où le féminisme était lié à l'idéologie marxiste, on voulait empêcher toute spécialisation. Mais comme par hasard, les garçons se retrouvaient en mécanique, les filles en chimie. L'espace, par exemple, est lié au fonctionnement, je ne me rappelle plus si c'est le cerveau droit ou gauche, j'oublie toujours, mais celui qui est le plus développé dans le fonctionnement cérébral du garçon. Alors, bien sûr, il y a des différences individuelles qui jouent aussi beaucoup, mais ça paraît avéré, c'est dans ce livre d'une manière qui est établie de manière je crois, au-delà de toute contestation, parce que c'était en présence de féministes très, très accusés que cela a été dit. Certaines différences psychologiques, plus ou moins associées, sont enregistrées aussi. Et alors, ce qui est intéressant, et par quoi j'achève, c'est que, depuis le temps de cet ouvrage, il y a plutôt reflux vers une reconnaissance plus considérable des différences, en particulier d'ordre psychologique. J'ai vu dans le journal des psychologues, que reçoit ma femme, là, dans le dernier numéro, précisément, mention d'études publiées en 1994, qui représente un changement de l'opinion majoritaire. Il était politically correct de nier toutes les différences qui seraient innées, qui ne seraient pas dues à l'influence culturelle, mais aujourd'hui, on commence à dire « Ah si, si, quand même !» D'une façon donc beaucoup plus accentuée que même à l'époque de l'ouvrage d'Evelyne Sullereau et Odette Thibault, « Le fait féminin ». Donc je pense qu'il y a, que nous pouvons admettre cela. Comme butin du travail des sciences humaines, il y a des différences intéressantes, bien que la Bible elle-même ne les mette pas en valeur, et elles peuvent nous aider à comprendre les intentions divines quant au rôle, mais sur les rôles, alors nous parlerons demain. Voilà, comme j'ai voulu terminer à l'heure, je n'ai pas pris la question de François, mais je vais lui répondre là maintenant.